VOA Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington, Morgane Guiriac.
Bonsoir à tous, il est 17h30, temps universel, Le Monde aujourd'hui, édition du jeudi 5 octobre 2017, en direct de Washington DC. Au sommaire ce soir, attaque au Niger, 3 soldats américains sont décédés hier près de la frontière malienne. 10 miliciens Maïmaï ont été tués lors d'une attaque menée par l'armée dans l'est de la République démocratique du Congo. Journée de colère au Togo, la population a répondu massivement à l'appel de l'opposition. Dans magazine République Centrafricaine, Human Rights Watch accuse les groupes armés d'utiliser le viol et l'esclavage sexuel comme arme de guerre. Retrouvez Nicolas Pinault à la fin de ce journal pour les sports et Blanche Sanou pour la Minute Éco. Mais d'abord, le journal. Attaque au Niger. 3 soldats américains sont morts hier près de la frontière malienne. Le centre de commandement américain pour l'Afrique ou AFRICOM a confirmé l'embuscade et ce bilan. Le président Mahamadou Issoufou s'est exprimé sans grande précision sur le nombre de soldats nigériens tués ni sur les circonstances. Détail avec notre correspondant Abdulrazak Idrissa.
Les autorités nigériennes n'ont toujours pas communiqué sur cette attaque, même dans l'occasion qu'il a eue d'en parler alors qu'il procédait à l'ouverture d'une réunion des épouses des chefs d'État ouest-africains sur la fistule à Niamey. Le président Issoufou Mahamadou a laissé les Nigériens sur leur soif.
Notre pays vient une fois de plus de faire l'objet d'une attaque de groupes terroristes, attaque qui s'est soldée malheureusement par un nombre important de victimes.
Un deuxième communiqué du commandement américain pour l'Afrique, AFRICOM, diffusé jeudi après-midi, maintient les 3 morts du côté américain et revoit à la baisse le bilan du côté de Niger, passant de 5 à 1 soldat tué. Abdulrazak Idrissa, à Niamey, pour VOA Afrique.
10 miliciens Maïmaï ont été tués lors d'une attaque menée par l'armée congolaise dans l'est de la République démocratique du Congo. On fait le point avec Yakuba Ouedraogo.
Les forces armées de la RDC ont lancé l'attaque contre les Maïmaï Mazembe à Kampaga et les ont délogés. 2 militaires ont été blessés. À la mi-journée, le calme est revenu dans la zone. Des groupes armés contrôlent plusieurs villages et s'affrontent depuis plus de 20 ans dans le Nord Kivu. Pendant la deuxième guerre du Congo, de 1998 à 2003, certains de ces groupes ont été armés par le pouvoir pour lutter contre des combattants ougandais et rwandais. Beaucoup n'ont pas désarmé. Depuis le début de l'année, ces miliciens attaquent souvent les positions de l'armée dans le Nord et le Sud Kivu où opère un autre groupe, dit Mai Mai Yakutumba, qui a récemment tenté de prendre le village d'Ouvira. L'est de la RDC est déchiré par des conflits armés depuis plus de 2 décennies.
RDC toujours, dans le centre du pays, un capitaine de l'armée a été tué mardi par 2 hommes armés de fusils de chasse dans le Kasaï. Le capitaine Sakwa Kazadi a été tué alors qu'il revenait d'une réunion de sécurité dans un village de Chikapa. Mais selon des témoins interrogés par l'AFP, le capitaine assassiné se disputait un colis de diamants avec les 2 hommes qui l'ont tué. Manifestation au Togo. La population a encore répondu massivement à l'appel de l'opposition aujourd'hui. Des dizaines de milliers ont battu le pavé, selon Kayi Lawson, notre correspondante à Lomé. Ils exigent le retour à la constitution de 92 qui empêcherait le président Fornia Simbé de briguer un autre mandat.
La marche dite de la colère s'est déroulée sans incident majeur à Lomé ce 5 octobre 2017, à part quelques-uns survenus dans la périphérie nord-ouest, dans la banlieue d'Andidogomé et sur le boulevard du Mono, sur la nationale numéro 2, reliant la frontière ghanéenne à celle béninoise. La situation complexe a relevé l'ancien Premier ministre, Maître Yanvi Agbeyebo. Le référendum n'est pas la solution à la crise actuelle togolaise, a-t-il martelé. Des manifestants qui nous ont affirmé qu'ils sont en colère contre le régime en place. Si le président faisait un discours pour nous apaiser, on comprendrait. On dirait que toutes ces manifestations ne lui disent rien, a indiqué tout coléreux Aruna, l'un des manifestants. Il est 17h temps universel. C'est en ce moment même que les manifestants rallient le point de chute de la marche. Quelles seront les consignes? C'est la question qui trottine dans la tête de ces milliers de personnes qui ont manifesté ce 5 octobre 2017 à Lomé. Kailosson, Lomé, VOA Afrique.
Les autorités malgaches ont ordonné la fermeture pour désinfection des universités de la capitale Antananarive et de Taumasina, deux régions touchées par une épidémie de peste qui a déjà fait 33 morts. Eric Maniarakiza.
Les universités de Taumasina et d'Antananarive seront fermées pour cause d'assainissement, indique le ministère de l'Enseignement supérieur. Le campus de la capitale ne sera rouvert aux étudiants que la semaine prochaine. Le gouvernement a interdit les rassemblements publics dans la capitale jusqu'à nouvel ordre. Les autorités ont mis en place des barrages sanitaires aux portées de la capitale pour informer les usagers des taxis brousses qui desservent les villes côtières. Sur 231 malades, 33 personnes sont mortes. La peste a provoqué un vent de panique à Antananarivo. Les pharmacies ont été prises d'assaut pour se fournir en masques et antibiotiques. La peste se développe chez les rats, mais est véhiculée par les puces. Chez l'homme, sa forme bubonique se soigne avec des antibiotiques, mais sa forme pneumonique, transmissible par la toux, peut être fatale en très peu de temps.
C'est une victoire pour le clan Bongo. Le journaliste et écrivain Pierre Péan a été condamné par la justice française à 1 000 euros d'amende pour avoir diffamé le président gabonais Ali Bongo en laissant entendre dans un de ses livres qu'il avait commandité un assassinat politique. Dans ce livre intitulé « Nouvelles affaires africaines » et publié en 2014, le journaliste français laissait entendre qu'Ali Bongo était à l'origine de deux tentatives d'assassinat de Jean-Pierre Lembumba, directeur de cabinet de son père, Omar Bongo. Mozambique, le maire de Nampula, troisième ville du pays, a été tué par balle mercredi soir à son domicile. Élu d'opposition, il était connu pour ses prises de position contre la corruption. Le meurtre de Mahamudu Amrouane a provoqué des manifestations de colère dans plusieurs quartiers de Nampula, où la police a été contrainte de procéder à des tirs d'avertissement pour amener le calme. Migration vers le Yémen. Les Somaliens qui avaient trouvé refuge dans ce pays commencent à rentrer en raison de la guerre, du choléra et des risques de famine. D'après l'Agence des Nations Unies, 250 000 Somaliens qui ont fui les violences chez eux et vivent dans des camps au Yémen en guerre depuis 2015. Deux bateaux affrétés par le HCR et l'Organisation internationale des migrations ont déjà quitté le sud du Yémen pour le port somalien de Berbera.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Conséquence de la fusillade de Las Vegas, ici à Washington, des élus républicains se disent prêts à discuter de l'éventualité d'interdire les mécanismes transformant les fusils semi-automatiques en fusils automatiques. Une telle conversion a permis aux tueurs de Las Vegas de multiplier le nombre de ses victimes. Après des décennies de résistance, le Grand Old Party pourrait donc faire un petit pas en direction des démocrates sur le sujet sensible de l'encadrement des armes individuelles, même si cela resterait largement symbolique et qu'on est encore très loin de toute modification législative. L'Arabie Saoudite a signé avec la Russie un accord préliminaire ouvrant la voie à l'achat de systèmes russes de défense antiaérien S-400 ainsi qu'à leur production dans le Royaume saoudien, allié traditionnel des États-Unis. L'accord a été signé à l'occasion d'une visite du roi Salman à Moscou, reçue au Kremlin par Vladimir Poutine, c'est ce que rapporte l'AFP. Le comité international de la Croix-Rouge tire la sonnette d'alarme sur le sort des civils syriens. D'après l'organisation, ils sont des centaines à avoir été tués et des milliers de nouveaux déplacés alors que le pays connaît son plus fort pic de violence depuis la bataille d'Alep. Le CICR s'inquiète notamment des bilans faisant état de destruction d'écoles et d'hôpitaux. L'exode des musulmans Rohingyas de Birmanie se poursuit. Ils sont 900 000 à avoir trouvé refuge au Bangladesh voisin et Dhaka dit vouloir les rassembler dans un seul gigantesque camp de réfugiés. Ce camp sera le plus grand de la planète. Sachez enfin qu'un attentat s'est produit dans le sud-ouest du Pakistan. Un kamikaze s'est fait exploser devant un sanctuaire soufi dans la province du Baloutchistan, près de la frontière avec l'Iran et l'Afghanistan. On compte 13 morts et une vingtaine de blessés. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. L'actualité économique en Afrique, Blanche Sanou, Lemnuteco.
Le Centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire et l'Assemblée des régions et districts de Côte d'Ivoire ont signé un protocole d'accord en vue d'impulser une dynamique nouvelle pour la mobilisation des acteurs autour d'actions prioritaires de développement. Ce partenariat vise principalement à mettre en œuvre des projets structurants dans les régions et développer les investissements directs. Le trafic sur la ligne Paris-Bamako ne cesse de croître malgré les problèmes sécuritaires, les taxes élevées et la concurrence d'Aigle Azur, selon le patron d'Air France, Franck Terner. L'annonce a été faite à l'occasion du 80e anniversaire de la ligne Paris-Bamako et le directeur général de la compagnie a réaffirmé l'attachement de la compagnie à cette desserte de la zone sahélienne. Au Sénégal, le déficit commercial a augmenté de 80,9 milliards de francs CFA en août 2017, comparé au mois précédent selon la direction de la prévision et des études économiques. D'après APA News, cette situation traduit la baisse de 17,5% des exportations de biens conjugués à une hausse de 25,5% des importations. Le taux de couverture des importations par les exportations s'est replié de 15,9 points pour se situer à 30,5% en août 2017.
Place au sport avec Nicolas Pineau. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir Morgane, bonsoir à tous.
J-1 avant le choc Bamako-Mali-Côte d'Ivoire.
Et oui, la défaite surprise à domicile en septembre contre le Gabon a ravivé l'inquiétude en Côte d'Ivoire. Les éléphants n'ont plus qu'un point d'avance en tête de leur groupe des qualifications pour le Mondial 2018. Et la presse s'impatiente avant le déplacement demain à 19h temps universel au Mali. Nous allons faire plus que tout pour passer, assure le sélectionneur Marc Wilmots, qui a pris en main les éléphants moribonds après une CAN 2017 complètement ratée. La tâche des éléphants va être dure, d'autant que seront absents les attaquants Gervinho, Seydou Doumbia, Wilfried Bony ou encore Jean-Michel Seri qui ont déclaré forfait.
Kolo Touré, nommé sélectionneur adjoint de la Côte d'Ivoire.
Ah oui, l'ancien joueur ivoirien, déjà coach adjoint des équipes locales et olympiques, viendra prêter main forte à Marc Wilmots demain au Mali pour ce match décisif.
La Syrie maintient l'espoir.
L'Australie tenue en échec un but partout par la Syrie en pré-barrage asiatique après une option sur le barrage continental face au quatrième de la zone CONCACAF en vue de décrocher un ticket pour le Mondial 2018. Une rencontre disputée à Malacca en Malaisie, évidemment, puisque la Syrie ne peut accueillir de match international. L'Australie a ouvert le score par Robbie Cruz, puis la Syrie a égalisé sur pénalty par Omar Al-Soma. Le match retour, c'est mardi à Sydney.
La Russie prête pour le Mondial 2018.
Oui, la FIFA s'est dit satisfaite, soulignant quand même qu'un travail significatif restait encore nécessaire. De façon générale, la préparation est bonne, a déclaré Colin Smith, le directeur des compétitions de la FIFA, à l'issue d'une visite de 10 jours dans le pays. Nous avons observé la préparation des stades, mais aussi les villes hautes dans leur ensemble. C'est-à-dire que nous avons tout regardé, a-t-il encore ajouté.
Et la Coupe du 2026, on en parle aussi ?
La FIFA a promis un processus d'attribution du Mondial 2026 transparent après les suspicions des Coupes du Monde 2018 et 2022 à la Russie et au Qatar. C'est ce que déclare Gianni Infantino dans une tribune à paraître demain dans le magazine de la FIFA. On rappelle qu'à ce jour, une seule candidature commune, États-Unis, Canada, Mexique, fait figure de favorite pour 2026 face à celle du Maroc. La Coupe du Monde 2026, ce sera la première Coupe du Monde à 48 équipes.
Merci Nicolas.
Salut, c'est Nathalie Barge. Juste un petit mot pour vous inviter à participer à l'émission interactive À votre avis à 18h temps universel ce jeudi sur VOA Afrique. Que pensez-vous des cortèges présidentiels et autres déplacements officiels? Sont-ils particuliers en Afrique? Comment se passe-t-il dans votre pays? Pour participer, laissez vos numéros et commentaires sur la promo de notre page Facebook ou appelez en direct au 001 202 205 26 33. A tout à l'heure sur VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Et de retour avec vous, Morgane Guiriec, deuxième partie d'émission, les dossiers du jour. Nous ouvrons sur le Cameroun. Les États-Unis ont jugé hier inacceptables les violences en marge d'une proclamation symbolique d'indépendance dans les zones anglophones le 1er octobre. Washington appelle les autorités de Yaoundé à respecter les droits de l'homme. Le département d'État américain se dit profondément préoccupé par la violence et les pertes en vie humaine dans les régions anglophones. John Lindon a joint à Bamenda Joshua aussi vice-président du SDF, le principal parti d'opposition.
Il y a beaucoup trop de pertes en vie humaine, beaucoup trop de violence de la part des autorités de maintien de l'ordre pour une simple manifestation. Vous voyez, d'un côté de la frontière, du côté francophone, les Camerounais ont manifesté pour le 1er octobre. Il n'y a eu aucun tir. Et du côté anglophone, à cause des vérités des sécessionnistes, les forces de l'ordre ont tiré à balles réelles. Il y a malheureusement beaucoup trop de décès survenus le 1er octobre et beaucoup trop de personnes sont aujourd'hui incarcérées ou portées disparues.
Les États-Unis appellent justement le gouvernement camerounais à respecter les droits humains et la liberté d'expression et à dialoguer pour trouver une issue aux problèmes des populations dans les régions anglophones. Est-ce que vous pensez que ce message peut être entendu par les autorités à Yaoundé?
Ben, nous espérons que les autorités gardent raison et reviennent un tout petit peu à des sentiments plus patriotiques et arrêtent de tuer nos compatriotes. Ça fait un an que le SDF demande exactement ça. Nous, notre grande crainte aujourd'hui, c'est qu'on soit arrivé à un point de non-retour et que le dialogue ne soit plus possible avec ceux qui tuent des Camerounais aujourd'hui. Donc vous ne pouvez pas d'un côté tuer en toute impunité des centaines de Camerounais et de l'autre côté appeler au dialogue et commencer à dialoguer comme si de rien n'était. Donc nous pensons qu'il y a un élément que le département d'État a négligé dans son communiqué, c'est celui de faire une enquête pour faire la lumière sur tous ces meurtres et que ceux qui ont demandé à l'armée de tirer à balles réelles sur les manifestants.
Est-ce qu'au sein du SDF, vous pensez qu'il y a espoir que ce problème se résolve dans la paix?
Il faut absolument, au sein du SDF, il faut restaurer l'ordre constitutionnel. Et l'ordre constitutionnel passe par avoir un gouvernement légitime. Et un gouvernement légitime est un qui ne tire pas sur ses propres citoyens, mais qui les protège. Un gouvernement légitime, c'est un qui travaille pour son pays et qui n'est pas en vacances, dont le chef n'est pas en vacances pendant que le pays brûle. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut absolument qu'on reconnaisse que le problème n'est ni à Bamenda ni à Bouya, mais le problème il est à Yaoundé avec le président de la République et que c'est M. Biya le problème.
Voilà, c'était Joshua Ozi, président du SDF, joint à Bamenda.
Et Kia Badou avec vous dans Washington Forum ce jeudi, le point sur la situation au Cameroun. Depuis novembre 2016, la minorité anglophone, qui représente environ 20% des 22 millions de Camerounais, proteste contre ce qu'elle appelle sa marginalisation. Elle exige le retour au fédéralisme sans obtenir satisfaction du gouvernement. Faut-il proclamer l'indépendance des régions anglophones? Comment réconcilier les différentes régions? Comment sortir de cette crise? Vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique, Washington Forum, c'est jeudi à 19h en temps universel.
Human Rights Watch hisse une fois de plus le drapeau rouge en Centrafrique. L'organisation américaine accuse les groupes armés de recourir au viol et à l'esclavage sexuel comme arme de guerre depuis près de 5 ans. Et des commandants ont toléré que leurs forces commettent ces exactions à grande échelle et les auteurs de ces crimes n'ont ni été arrêtés ni traduits en justice, alerte Human Rights Watch. Solange Niamouissa a joint Hilary Margolis, chercheuse à Human Rights Watch.
Nous avons fait des entretiens avec presque 300 femmes et filles qui étaient des victimes de violences sexuelles parmi les femmes. On a documenté plus que 300 cas. Les auteurs étaient parmi des groupes armés, donc on avait des cas plutôt de Seleka et Antebalaka, mais aussi quelques cas qui étaient faits par un nouveau groupe qui s'appelle 3R. On a identifié certains commandants, certains chefs des groupes armés. Soit ils ont participé eux-mêmes dans la violence sexuelle, soit ils étaient des chefs qui ont connu ou ont laissé les éléments font la violence sexuelle. Mais en général, on a trouvé que c'était quelque chose qui était vraiment toléré par des groupes et qui était vraiment fait partout, un peu partout le pays, partout parmi les groupes.
Dans votre rapport, vous avez mentionné 6 dirigeants de groupes armés qui ont été identifiés par des victimes.
Il y a certains qui ont des noms de guerre, par exemple. Par exemple, il y a un chef qui s'appelle Angelo, qui est bien connu déjà dans le pays. Il y a un autre qui s'appelle Rambo, un autre qui s'appelle Ali Zarafa, qui est le chef d'un grand groupe de Seleka.
En dehors des groupes armés, il y a aussi les casques bleus de l'ONU, la force française qui ont été accusés des violences sexuelles, mais jusqu'à aujourd'hui, aucune suite.
Oui, c'est vrai, c'est aussi un problème. Il faut se battre contre l'impunité pour n'importe qui fait le violence sexuelle. Mais en fait, pour ce rapport, on s'est focalisé sur les attaques par des groupes armés parce que on trouve que, franchement, parmi la population en général, il y a beaucoup plus de victimes de violences par des groupes armés.
Pourquoi jusqu'à aujourd'hui les auteurs n'ont pas été arrêtés et traduits en justice?
D'abord, il n'y a pas un bon système judiciaire qui fonctionne. Beaucoup des structures ont été détruites pendant le conflit, mais même avant le conflit, c'était un système qui ne fonctionne pas bien. Il y avait beaucoup d'impunité depuis des années, surtout pour la violence sexuelle. Il n'y avait pas beaucoup d'enquêtes. Il y a le nouveau corps pénal spécial qui donne une opportunité pour combattre l'impunité.
Hilary Margolis, chercheuse à Human Rights Watch.
Vous êtes sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 en République centrafricaine, à Bangui, sur le 101.7 FM.
Marche de la colère au Togo. 5 octobre 90, 5 octobre 2017. Les Togolais se rappellent, 27 ans après, du premier soulèvement contre le régime d'Eyadema Niasingbe. Le mouvement a été réprimé dans le sang. Aujourd'hui, l'opposition a mobilisé la population pour obtenir des réformes instaurant une limitation des mandats présidentiels. Les manifestants ont barré la route avec des barricades. La genèse de ce mouvement avec Michel Goué-Akoué, professeur d'histoire contemporaine à l'Université de Lomé, au micro d'Éric Manirakiza.
Ce jour-là, il faut dire que ça faisait 23 ans que les Togolais subissaient le jour d'une dictature marquée par les atteintes aux droits de l'homme. Beaucoup d'actions étaient faites déjà avant 90, notamment même en 86, une intervention militaire venant de l'extérieur. Mais ce jour, il y a des partis qui se sont organisés en clandestinité, notamment la CDPA, et qui s'est fait reconnaître à Genève. Et c'est donc avec les jeunes de la CDPA que des tracts ont été distribués donc, à Lomé, et 2 jeunes ont été arrêtés. On les avait jugés et on devait donner le verdict le 5 octobre. Et toute la jeunesse était là, notamment la jeunesse étudiantine, et ils ont dit que ça ne peut pas continuer. N'oubliez pas que nous sommes un peu dans la période du vent de l'Ouest, le mouvement démocratique. Et là, les jeunes se sont chantés l'hymne national. Et c'est comme ça qu'une insurrection populaire a commencé. On a partagé les commissariats, brûlé les véhicules administratifs et autres. Et le Togo s'était embrasé, hein, pratiquement. Et les jours ont suivi. Et c'est tout le Togo qui est entré dans l'action. C'est ça qui nous a conduit progressivement au code donc, d'ouverture à la charte des partis et à la conférence nationale qui a mis en place les nouvelles institutions.
Il y a eu une répression sanglante. Est-ce que vous connaissez exactement le nombre de morts à l'époque?
Il y a beaucoup de chiffres qui ont été avancés. De tout le processus qui allait jusqu'à la mise en place donc, du pouvoir, il y a plus d'une centaine de morts. Il y a eu beaucoup quand même de morts et de blessés. en 2005, et après donc le décès du Gnassingbé Eyadema, pour que le fils y accède, il y a eu donc beaucoup de mouvements qui ont contribué par plus de 500 morts. Les rapports des Nations Unies parlent de 500 morts, d'autres rapports, le rapport intérieur parle de 700 à 800 morts, et d'autres parlent de 1000 morts. Au-delà, il y a des morts qui n'ont pas pu être comptabilisés.
Professeur, il y a eu une forte mobilisation aujourd'hui en mémoire de cette date. Est-ce qu'on peut lier les revendications actuelles avec les revendications de l'époque?
Oui, nous disons que les revendications de l'époque n'ont pas été totalement satisfaites. Tous les acquis sont plus ou moins remis en cause aujourd'hui parce que nous assistons à un retour à l'immobilisme avec le parti-État qui continue donc de gouverner. Alors si on compte de là donc le pouvoir du père et le pouvoir du fils aujourd'hui, ça fait 50 ans. On dirait pratiquement que nous sommes dans un système du valériste où du père en fils, donc le pouvoir est aux mains de Gnassingbé qui continue de régenter avec toutes les atteintes aux droits de l'homme.
Michel Goé Akoué, professeur d'histoire contemporaine à l'Université de Lomé.
VOA Afrique en direct de Washington.
Au Burundi, le prix de l'électricité a doublé depuis septembre. La population s'interroge car les prix des matières premières et matières de première nécessité ne cessent de flamber. Pour les autorités, mieux vaut une hausse des prix de l'électricité qu'une pénurie. Un reportage à Bujumbura de Christophe Kurunziza.
L'Union européenne subventionnait la production de l'électricité au Burundi à hauteur de 25%. Mais depuis la suspension de la coopération de l'Union européenne, la pénurie de l'électricité était quasiment quotidienne. Mais un contrat entre la Régie des eaux et la société Interpetrol a permis l'achat de 30 MW de l'énergie thermique. Les délestages commencent à disparaître petit à petit dans les quartiers de la capitale. Cet habitant de Bujumbura ne cache pas sa colère malgré la fin des délestages.
C'est vraiment désolant parce que vous voyez, avec des prix comme ça, ça augmente le coût de la vie habituelle. Par exemple, un kilo de blé ou de maïs, et quand on a mené pour faire la farine, on payait 100 francs. Mais pour le moment, c'est 300 francs. C'est beaucoup. Donc c'est la vie qui devient vraiment impossible. Tout augmente. C'est vraiment malheureux, mais au moins, c'est le moindre mal pour éviter au moins l'utilisation des bougies qui causent des accidents dans les ménages. On entend des enfants qui sont brûlés, qui vont à l'hôpital à cause des bougies qu'on utilise dans la place de l'électricité. Donc c'est malheureux, mais au moins, c'est le moindre mal.
Bien de Burundi demande à la Régie des eaux de revoir leur décision. Ce Burundi moyen ne cesse de se plaindre.
Nous continuons de plaindre parce que, vous savez, ici chez nous, beaucoup de gens n'ont pas le droit de travailler. On est chômeurs. Alors, augmenter le prix de l'électricité, ça me dérange beaucoup. Parce qu'on n'a pas assez d'argent pour acheter ça. Nous, on ne trouve pas le droit à manger, simplement.
Et qu'est-ce qu'on vous demande à la Régie des eaux?
De baisser le prix.
Le directeur de la Régie des eaux reconnaît que le pays fait face à une crise énergétique. Jéroboam Nikobanyanga estime que les centrales thermiques étaient le seul remède de manque de courant. Vaut mieux une hausse du prix de l'électricité que le manque de courant, indique-t-il. Ce responsable affirme qu'à la longue, les centrales thermiques ne sont pas la solution car elles coûtent plus cher que l'énergie hydroélectrique. L'association burundaise des consommateurs s'indigne des explications fournies par la Régie des eaux et se pose la question de savoir pourquoi la Régie des eaux n'investit pas dans la construction des barrages hydroélectriques. Christophe Nkurunziza, Bujumbura, VOA Afrique.
Salut les amis, ici Roger Moutou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h temps universel. Au menu African Music, des anciens et nouveaux morceaux africains. Suivez-nous en direct sur Facebook Live VOA Afrique. Participez en appelant au 001-202-205-2633. 001-202-205-2633. Nous sommes aussi sur Twitter, Instagram et Facebook. Tapez juste hashtag RM Show. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h, temps universel, sur VOA Afrique. Peace Africa!
C'est la fin de cette édition. À la mise en onde de Michel Joseph, présentation Morgan Guiriec. Ainsi va le monde aujourd'hui. On reste en contact sur Facebook. Rendez-vous également sur notre site internet voafrique.com pour l'actualité 24 sur 24. Au revoir.